considère que vous êtes venu entendre la voix de Dieu, mais et pas la mienne, parce que la mienne est en train de vous lâcher. Voilà, nous allons réouvrir le 21e chapitre de l'Apocalypse, et comme nous y allons lentement, mais sûrement, nous allons relire les deux premiers versets de ce chapitre. Où l'apôtre Jean écrit « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'était plus. Et je vis descendre du ciel l'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, réparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. » Je voudrais le redire ce soir, il y a un point capital dans l'enseignement qui nous est apporté ici, à la fin du livre de Dieu. C'est que pour participer à la nouvelle Jérusalem, il faut déjà que dès maintenant, dans notre vie, le caractère glorieux de cette nouvelle Jérusalem soit manifesté en nous et se développe en nous. Pour la simple bonne raison, c'est que nous sommes la nouvelle Jérusalem. Et je ne peux pas vivre dans l'illusion de participer à cette nouvelle Jérusalem finale s'il n'y a pas dans mon cœur fortement imprimé déjà le caractère spirituel de cette nouvelle Jérusalem. Le Seigneur en parle dans ce chapitre 21. Mais nous remarquons que dans un message prophétique de Jésus adressé à l'église de Philadelphie, nous sommes là au troisième chapitre de l'Apocalypse seulement, Jésus dit au verset 12, chapitre 3 de l'Apocalypse, verset 12, « Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. » Écoutez bien la suite, c'est Jésus qui parle. « J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem, qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. » À cette église de Philadelphie et aux vainqueurs, Jésus promet qu'il va écrire trois choses sur lui. Jésus dit, j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu. Donc le nom de Dieu le Père sera écrit sur le vainqueur. Jésus dit ensuite qu'il écrira le nom de la ville de son Dieu, de la nouvelle Jérusalem. Donc va être écrit sur le vainqueur le nom de la ville du Père, la nouvelle Jérusalem. Et ce qui en est dit ici est en rapport direct, vous le comprenez, avec le chapitre 21e de l'Apocalypse, où il est parlé de la ville sainte, la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de Dieu. Et puis une troisième chose est écrite sur le vainqueur. Jésus dit, j'écrirai sur lui mon nom nouveau. Donc le nom de Dieu le Père, le nom de la nouvelle Jérusalem et le nom de Jésus. Ce qui signifie, vous le comprenez symboliquement, c'est que le caractère divin est fortement imprégné dans la vie du vainqueur. Et c'est pour cela qu'il peut participer à la nouvelle Jérusalem. Le caractère de Dieu le Père est imprégné en lui. Le caractère de Jésus-Christ est imprégné en lui. Et le caractère de ce que doit être la véritable Église, sur le plan individuel, le véritable chrétien, est manifesté en lui. J'écrirai sur lui mon nom nouveau. Cette parole de Jésus est tellement importante, lourde de conséquences, qu'elle mérite, je crois, notre attention, notre méditation, et elle appelle quelques remarques, et j'aimerais vous en faire trois ou quatre ce soir. Je vous demande votre attention, c'est simple, mais la portée spirituelle pour notre vie est de la plus haute importance. Le fait que quelque chose soit écrit sur le vainqueur, c'est un signe de distinction. Ça, c'est la première remarque que j'aimerais faire. Pourquoi ? Parce que, vous le savez, il y a deux peuples dans l'Apocalypse. Deux peuples bien distincts l'un de l'autre. Il y a celui que j'appellerais le peuple de Satan, le peuple du diable. Et celui-là va recevoir une marque distinctive. Ce peuple-là va recevoir la marque de la bête. Il va recevoir la marque de l'Antichrist. Je lis en effet, au chapitre 13 de l'Apocalypse, le verset 16. Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Il y a donc là une marque distinctive. Ils appartiendront à Satan et ils auront la marque sur leur personne. Ce sera imprégné, ce sera imprimé, son nom sur leur front. Et puis il y a un autre peuple dans l'Apocalypse. C'est le peuple de Dieu. Et celui-là reçoit l'inscription divine, également sur le front. Je lis au chapitre 22 de l'Apocalypse, le verset 3. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs le serviront et verront sa face. Et son nom sera sur leur front. Le peuple de Satan, et j'y viendrai plus profondément dans quelques secondes, va être imprégné de la nature du diable. Ça va être effrayant. Effrayant. et le peuple de Dieu, lui, est imprégné de la nature divine, celle du Père et celle de Christ. Il y a donc une marque de distinction. Le vrai chrétien, maintenant sur la terre, se distingue de celui qui vit encore dans les ténèbres. Ça se voit, ça s'entend. Le chrétien, l'homme, la femme, le jeune homme, la jeune fille qui marche avec le Seigneur est reconnaissable au milieu du monde. Il y a sur sa vie une empreinte qui fait que on peut dire celui-là, il est différent. Celle-là, elle est différente. Il y a quelque chose qui émane de sa personne. Nous le disions dans la réunion d'évangélisation chez Gagou mardi soir. Il y aura dans l'éternité un grand ami entre ceux qui souffriront en enfer et ceux qui seront dans le lieu de félicité, parce que déjà sur la terre, il y a un grand abîme entre le peuple de Dieu et ceux qui suivent l'ennemi de nos âmes. La marque dont nous parlons ce soir est aussi pour en faire une pensée d'identification. Et là, je vous demanderai aussi votre attention. Parce que c'est le nom du Père et le nom nouveau de Jésus qui est imprimé sur le vainqueur. Or, dans la Bible, le nom, c'est plus que le nom. Quand un enfant naît dans un foyer, parfois on lui donne un nom parce que c'est à la mode, parce que la consonance du nom nous plaît beaucoup, mais dans la Bible, ce n'est pas cela. Le nom évoque la personne. Le nom évoque la nature. Le nom évoque le caractère. Et c'est tellement vrai que quand Dieu change la vie et la destinée d'un homme, il change son nom. Abraham est devenu Abraham. Saraï est devenu Sarah. Un homme très proche de Moïse s'est vu appeler Josué. Quand il a été question de la naissance de notre Sauveur, le choix du nom n'a pas été laissé à Joseph ou à Marie. Mais l'ange est devenu dire à Joseph, « Tu lui donneras le nom de Jésus, Dieu sauve. » Parce qu'il y a sur cet homme, Dieu fait homme, il y a sur cet homme Jésus, toute la marque du plan de Dieu, le caractère de Dieu. Il a dit, celui qui m'a vu, a vu le Père. Et on devait lui donner le nom de Jésus, Dieu sauve. Il y a donc, dans ce que la parole de Dieu nous dit ici, une pensée d'identification. Le peuple qui n'est pas le peuple de Dieu a et aura sur lui la marque de son prince. L'apôtre Paul a écrit dans sa lettre aux Éphésiens que, avant d'être chrétiens, nous marchions selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion. Il y avait donc sur nos vies une marque, une empreinte, celle de l'ennemi. Et le monde est marqué par son prince, qui est Satan. Le monde entier, dit la Bible, gît sous la puissance du malin. Et l'autre peuple, l'Église, a et aura la marque de son Dieu. Et comme le nom évoque la personne, la nature, le caractère, je vous demande ici de réfléchir. Parce que le monde, loin de Dieu, est imprégné, et il va l'être de plus en plus, de la nature, du caractère, des pensées, des sentiments de Satan. Et on voit ces choses-là se développer de plus en plus dans le monde aujourd'hui. Quant au peuple du Seigneur, il va être, lui, imprégné de la nature, du caractère, des sentiments, des pensées de son roi, de son maître, le Seigneur. L'apôtre Paul a rappelé aux Galates, et il ne parlait pas du baptême d'eau, mais de l'immersion spirituelle dont nous parlions cet après-midi, « Vous tous qui avez été baptisés en Jésus-Christ, vous avez revêtu Christ. Le jour où j'ai donné ma vie à Jésus, le jour où tu as donné ta vie à Jésus, il a commencé à te marquer de sa personne. Il a commencé à imprégner sur ta vie ses pensées, ses sentiments, son caractère, sa nature. Ce qui amenait l'apôtre Paul à dire, nous avons la pensée de Christ. Ce qui l'amenait à écrire aux Philippiens, ayons les sentiments qui étaient dans Jésus-Christ. Ce qui amenait l'apôtre Jean à écrire dans sa première lettre que celui qui est né de Dieu doit marcher comme il a marché lui-même. Il y a une marque divine sur nos vies. Nous parlons comme Jésus a parlé. Mais Paul, l'apôtre Pierre disait que nous sommes devenus participants de la nature divine. Jésus a pris toutes sortes d'images. Mais j'aime celle de la vigne. Il a dit, je suis le vrai cep, mon père est le vigneron, et vous êtes les sarments. Eh bien, si nous réfléchissons à cette image qui est prise par Jésus, le cep et le sarment ne font qu'un. C'est la même vie qui passe dans le cep, du cep au sarment. C'est la même vie. Ils ne sont qu'un. Et si le sarment porte du fruit, c'est parce que la vie du cep va sans lui. Béni soit Dieu qui un jour a opéré ce miracle, cette grâce dans nos vies, de commencer à imprégner sur nous son caractère divin. Le chrétien est déjà, en ce mois de mars 2015, il est déjà imprégné du caractère de la Nouvelle Jérusalem, ou alors il n'y participera pas. C'est aussi simple que ça. Je livre ma vie à Jésus. Je désire vivre une vie de qualité. Et je dis, Jésus, remplis-moi. Vis ta vie en moi. Une marque de distinction, une marque d'identification, nous sommes un avec lui, et puis une marque d'appartenance. Savez-vous que les empereurs romains marquaient leurs soldats et leurs esclaves au front? Et de cette façon-là, l'individu qui était marqué au front portait le signe de son appartenance à son maître. Nous appartenons à notre Dieu. Nous appartenons à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et la preuve, c'est qu'il nous a marqués du nom du Père et de son propre nom. C'est tout le contraire pour le peuple de Satan. La Bible dit que celui qui pêche est du diable. Il est du diable. Il a la marque d'appartenance à son prince. Celui qui est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la semence de Dieu demeure en lui. Il y a une semence en lui. Il y a une marque en lui. Alors, vous allez me dire, mais on n'a pas eu une marque sur le front. Vous comprenez bien qu'il y a là encore un langage symbolique, mais pas tout à fait pour ce qui est à venir du monde de Satan. À propos du front, déjà, il existe des cellules électroniques que l'on glisse sous la peau et qui renferment date de naissance, adresse, groupe sanguin, numéro de carte bancaire, CV et d'autres choses encore. Ce n'est qu'un début, mais ça va s'étendre à l'échelle planétaire pour tous ceux qui vont entrer dans le règne de l'Antichrist. Ce qui veut dire, parce que c'est une marque d'appartenance, que l'Antichrist va tout contrôler. Le monde va porter la marque de son prince qui est Satan. Et en ce qui concerne le front, permettez-moi cette remarque. C'est là que se situe la volonté. Parce que quand on dit qu'un enfant a... On a tout dit, hein? Il a la tête dure. C'est là que se situe la détermination. C'est là que se situent nos pensées. Et les hommes appartenant au royaume universel de Satan, au moment de réfléchir à ça, ne raisonneront plus que selon les chemins dictés par Satan. Il y aura une telle emprise, il y aura, j'allais dire, un tel baptême de ténèbres sur chaque habitant de la planète, qu'en définitive, les gens seront manipulés par Satan. Ils seront des jouets entre les mains de l'Antichrist. Toute pensée, notée à l'image de la marque sur le front, toute pensée sera amenée captive à l'obéissance de Satan. Vous allez dire, oh, mais j'attends de voir pourquoi. Écoutez, il suffit qu'un couturier déglingué sorte la mode des jeans avec des trous partout. On voit ça de la cuisse. Moi, j'ai été adolescent. Je suis allé au lycée, c'était un honneur que d'être bien habillé. Maintenant, plus ils ressemblent à des clodos, plus ils sont bien. Ah, ils sont bien dans leur peau parce qu'ils sont comme des clodos. Et il suffit qu'un gars lance ça, et dans le monde, vous avez des dizaines de millions de gens. Regardez, j'en ai vu au milieu de vous comme ça. Rasé comme ça, plus rien. Et d'un seul coup, comme s'ils ont mis les doigts dans les prises de courant. Vous riez, mais il suffit qu'il y en ait un qui lance cette bande-là et il y a une marque. Est-ce que vous voulez comprendre, vous faire rire, mais c'est pas... Il y a une marque. Et ça, ce sont des essais. Le monde lance ses essais. Mais on prépare les choses. Parce qu'il y a des choses plus graves qui arrivent. On va contrôler le raisonnement des gens. Ils vont être complètement submergés par les ténèbres. Quelle est la position du chrétien? Paul dit, parce qu'il est serviteur de Dieu, si nous sommes dans la chair, alors là, ce n'est pas la chair dans ce qu'elle a de mauvais, c'est l'environnement humain. Si nous sommes dans la chair, c'est-à-dire si nous sommes dans un environnement humain, nous ne combattons pas selon la chair. N'avons pas des méthodes humaines, des armes humaines. Il dit, les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Nous renversons les forteresses. Nous renversons toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous abandonnons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Il y a une marque, celle de l'antéchrist qui arrive sur le front du peuple de Satan. Et l'antéchrist contrôlera les pensées, les décisions des gens, tout. Et puis il y a une marque sur le peuple de Dieu. Les pensées sont amenées captives à l'obéissance de Christ. Il y a été une marque de l'esprit que le vrai chrétien, il en est arrivé à dire, Seigneur, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Ma volonté, ma pensée est rendue captive à ton obéissance. Et je n'ai pas d'autre souci que de faire ce que tu veux. Je n'ai pas d'autre volonté que de faire ce que tu veux. Cette marque, elle est là, sur mon front. Et mes pensées sont rendues captives à ton obéissance. Ce texte, adressé à l'église de Philadelphie, se situe avant l'enlèvement de l'église. Et la promesse de ce verset aura son accomplissement dans ce que la Bible appelle le renouvellement de toutes choses, et qui nous préoccupe dans ce séminaire, les nouveaux cieux, la nouvelle terre, la nouvelle Jérusalem, le cantique nouveau. Mais ce qui est certain, c'est que pour faire partie, et excusez-moi de le répéter, mais je crois que c'est très très important, pour faire partie de cette nouvelle Jérusalem, il faut dès maintenant en avoir la nature et le caractère, ainsi que ceux de Dieu et de Jésus. Il me semble que c'est la grande leçon des deux derniers chapitres de la Bible. Et puis pour terminer sur cette pensée ce soir, parce que je ne veux pas être trop long, il y a une réunion de jeunesse après. Le Seigneur Jésus dit, j'écrirai sur lui mon nom nouveau. J'aime beaucoup creuser la parole de Dieu et chercher à savoir. Plus je vais, plus je suis passionné par la parole de Dieu. Et je me suis dit, mais Jésus dit, j'écrirai sur lui mon nom nouveau. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Mon nom nouveau. Le nom de mon Dieu, ça c'est facile. Parce que dans sa prière sacerdotale, dans Jean 17, le Seigneur Jésus a dit quelque chose qui nous permet de comprendre. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Et un petit peu plus loin, je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître. Donc c'est facile, Jésus a bien écrit le nom de son Père sur nous. Il nous a fait connaître le nom de son Père, c'est-à-dire sa personne, son caractère, sa vie, sa nature. Mais en ce qui concerne lui, j'écrirai sur lui, il écrit sur nous son nom nouveau. Quel est ce nom nouveau? Ceux que Jésus portait sur la terre nous sont connus. Jésus, Christ, Emmanuel, ce ne sont pas des noms nouveaux. Il y a ceux avec lesquels Jésus se présente dans l'Apocalypse et qui nous sont aussi connus. Par exemple, au chapitre 19, où Jean écrit, puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Un peu plus loin, il est étaient revêtus d'un vêtement teint de sang, et ça déjà, ça nous éclaire, son nom est la parole de Dieu. Sans nul doute, il est question de Jésus. Parce que son nom est la parole de Dieu, quand l'évangéliste Jean, au tout début de son évangile, nous parle de Jésus, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu, et on sait que c'est de Jésus dont il parle. Son nom est la parole de Dieu, c'est Jésus, c'est pas un nom nouveau. Ce même Jésus est appelé fidèle et véritable. C'est pas un nom nouveau, puisque il nous est révélé ici. Alors, la question fut grande à mes yeux. J'ai pensé alors à ce que Jésus dit dans son enseignement dans l'évangile de Matthieu. Personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. La vraie connaissance de Jésus, dans toutes les profondeurs de son être, dans toutes les fibres intérieures de son être, dans ses pensées les plus profondes, les plus glorieuses, les plus magnifiques, celui qui est capable de descendre dans les profondeurs du Christ, c'est Dieu le Père. Personne ne connaît le Fils, si ce n'est le Père. Alors, j'ai continué à réfléchir, puis je vais vous dire ce que je pense. Vous n'êtes pas obligé d'adhérer à ma pensée ce soir, mais j'ai le sentiment que je ne suis pas loin de la vérité quand même. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas voulu conserver jalousement son rang divin. N'a pas voulu être resté égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant, jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé. Ce soir, mon frère, ma sœur, tu crois dans un Christ souverainement élevé. L'Épître aux Éphésiens me dit que Dieu l'a fait asseoir au-dessus de tout. Au-dessus de tous, personne à part le Père n'est plus haut que Jésus. Il contrôle tout, tout est sous ses pieds. Il est le vainqueur absolu.
Alléluia.
C'est ce Jésus-là dans lequel tu crois. C'est ce Jésus-là dans lequel tu as placé ta confiance, sur lequel tu as commencé à construire ta vie. C'est ce Jésus-là qui vit dans ton cœur. Il est au-dessus de tout et au-dessus de tous. Et il lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et Paul, c'est quoi ce nom-là? Il n'a rien dit. Il n'a rien dit. Et je me suis dit, mais voilà le nom nouveau. C'est que quand tout a été accompli, quand il a terminé son œuvre, il est remonté. Et quand tout a été terminé parce que c'est fini, l'œuvre, elle est accomplie pour l'Église, Dieu, à ce moment-là, a donné à Jésus le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est un nom nouveau. Ça n'a rien à voir avec ce que Jésus était et faisait dans l'éternité en arrière. Ça n'a rien à voir avec ce que Jésus était et faisait sur la terre. ça concerne son œuvre achevée. Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Alors je vais être humble et modeste. Je vais simplement dire, est-ce que ce ne serait pas ça, le nom nouveau? Si c'est ça, au vainqueur, comme Jésus l'a été, après la tombe, il a triomphé du diable, de la mort, du péché, de tout. Au vainqueur, Jésus dit, je vais écrire sur toi mon nom nouveau. Ça m'intéresse de plus en plus, j'ai l'impression de cerner le problème de plus en plus près. Quel est le chrétien vainqueur? Sinon celui qui, en Christ, meurt. Si tu es mort en Christ, tu as commencé à entrer dans sa victoire. Parce que se convertir, c'est mourir. C'est mourir au monde, mourir au péché, mourir à la domination de Satan. Hein? Ce soir, je vais éveiller votre réflexion. J'en profite, ma voix tient le coup. Alléluia.
Amen.
Il y a des gens qui, dans leur témoignage de conversion, c'est la seule chose qu'il trouve à dire. Le Seigneur m'a délivré de la cigarette. Et le peuple de Dieu, alléluia. Mais il y a plein de gens qui ne fument pas et qui vont aller en enfer. Et j'oserais même dire qu'il y a des gens qui arrivent à s'arrêter de fumer sans la cigarette électronique. Ils se sont arrêtés de fumer tout seuls. C'est pas une marque de conversion. Il y en a qui disent, je buvais, je bois plus. Et le peuple, alléluia. Mais si tu bois plus, Seigneur, c'est pas la mort qui a été convertie. Il y a des gens, ils ne sont pas passés par la croix pour arrêter de boire, ils sont passés par la croix bleue. Oui ou non? Alors, on est en train de confondre la conversion qui est un véritable changement de nature avec des grâces, parce que je suis d'accord, ce sont des grâces. Certaines victoires, certaines délivrances. Mais je veux dire qu'il y a des gens dans le monde qui sont mieux que certains chrétiens dans le domaine des mauvaises habitudes. Vous avez des gens dans le monde qui ne boivent pas, qui ne fument pas, qui déclarent tout aux infos. Bon, on voit tout ça d'ailleurs.
Gloire à Dieu.
Qui ne trompent pas leur femme. Vous avez des gens qui ont une vie morale impeccable. Et ce sont des athées. Qui vont se retrouver en enfer. Est-ce que vous commencez à comprendre ce que c'est que Jésus-Christ écrit sur nous son nom nouveau? Ça veut dire qu'à un moment donné, tu descends avec lui dans la tombe. Tu meurs au monde. Tu meurs à Satan. Tu meurs à l'empreinte du diable sur ta vie. C'est une libération du péché jusqu'au tréfonds de ta nature. Et c'est ça, le symbole du baptême d'eau. On a souvent dit que le baptistère, c'était un cercueil sans couvercle. Mais c'est vrai. Quand le pasteur t'immerge dans l'eau, tu disparais. C'est un ensevelissement. C'est le symbole d'une mort. Tu meurs avec Christ. Mais c'est un symbole. C'est le symbole de ce qui s'est fait avant. Je ne sais pas, j'ai le doigt un peu gonflé. Je ne sais pas s'il va la sortir. Bon. J'ai au doigt ici quelque chose que vous connaissez. Qui s'appelle... une alliance. Le 21 juin 1969,
Ben, je vous le dis parce que si vous voulez nous faire un cadeau, vous allez vous en rappeler. Le 21 juin 1969, à la mairie de Narobe, en Haute-Normandie, un certain Paul Vallière et une mademoiselle Madeleine Gardon se sont unis dans les liens du mariage pour le meilleur et le meilleur. Et j'ai passé au doigt de mademoiselle Madeleine Gardon ce qu'on appelle une alliance. Mais j'ai pas commencé à l'aimer ce jour-là. Je lui ai mis ce symbole, qui est le symbole de quelque chose de fort qui a existé avant. C'est pas l'alliance qui fait l'amour. C'est parce qu'il y a l'amour qu'il y a l'alliance. Et ça, c'est parce qu'il y a la mort dans le Christ qu'il y a le baptistère. C'est pas le baptistère qui crée la mort dans le Christ. Tu es mort dans le Christ avant, et le baptistère, c'est l'alliance, c'est le symbole, mais qui n'est que le prolongement de quelque chose qui existe avant. Et j'ai prêché tout ça dans une certaine église où j'ai été pasteur 15 ans, la dernière, je vous dirai pas laquelle, c'est quand. Et des gens sont venus me voir après des années de pastorat dans cette église. Et des gens m'ont dit, Monsieur Vallière, nous sommes convertis depuis que vous êtes là. Nous étions baptisés, mais nous n'étions pas convertis. C'est une question très importante. Même si elle te bouscule ce soir, même si elle te trouble, même si elle t'empêche de dormir, même si elle gâche un peu la fin de ce séminaire, tant mieux. Tant mieux. Je vais te poser la question. Quand tu as été plongé dans l'eau du baptême, est-ce que tu peux dire qu'il avait déjà imprimé son nom sur ta vie? Est-ce que tu peux le dire? Je suis mort avec lui. Mort avec lui. Et quand il sort de la tombe, je ressuscite avec lui. C'est ce qui amenait Paul à dire dans son épître aux Philippiens, je désire connaître la puissance de sa résurrection, parce que, écoute-moi bien mon frère, ma sœur, la puissance que Dieu a déployée pour sortir Jésus du tombeau. Et c'est pas rien. C'est la même puissance que Dieu est prêt à déployer dans ta vie et dans ma vie pour m'amener à vivre une vie chrétienne de valeur. Oui. Exactement. C'est exactement ça. Alors, je ressuscite avec Christ. Quand il ressuscite, je ressuscite en lui. C'est ce qui se passe quand je ressors du baptistère. Le pasteur me prend et je me relève. Peut-être qu'à ce moment-là, on ne la réalise pas bien, c'est dommage, mais quand on se remet debout, qu'on se relève de l'eau du baptême et qu'on se remet debout, c'est le symbole de notre résurrection dans une vie nouvelle avec lui. Et puis, quelques courtes semaines plus tard, Christ monte au ciel. Je monte avec lui. C'est ce qui amène l'apôtre Paul à dire dans son épître aux Éphésiens, il nous a fait asseoir avec lui. Non pas il nous fera, mais il nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Alors, il est mort, il est ressuscité, il est remonté, et à ce moment-là, il a reçu un nom nouveau. Le nom qui est au-dessus de tout nom. Je me demande, moi, si le nom qu'il écrit sur le vainqueur, c'est le chrétien qui meurt en Jésus, qui ressuscite en lui, et qui par la foi vit avec lui dans les lieux célestes. Mais c'est sûr que c'est un chrétien vainqueur. Et sur ce chrétien-là, Christ imprime sa nature, son caractère divin, toutes les fibres de son être. Il écrit son nom nouveau. C'est ce que je crois de tout mon cœur. Je vous ai dit, cet après-midi que la maison dans laquelle vous habitez, c'est votre résidence secondaire. La résidence principale, c'est Christ. Je voudrais vous prendre encore une image. Pour venir jusqu'à Montpellier, c'était notre étape avant d'arriver ici, nous avons pris le train, mon épouse et moi, en gare de Lyon à Paris. TGV. Voiture 8, place 41-42. Nous sommes assis et on n'a rien fait. Nous étions dans le train. Quelques deux heures et demie plus tard, le train s'arrête en gare de Valence. Mais nous n'avons rien fait. Aucun effort, aucun mouvement. Nous étions dans le train était à Paris, nous étions à Paris. Deux heures plus tard, le train était à Avignon, à Valence, nous étions à Valence. Et puis après trois heures et demie de trajet, le train est arrivé à Montpellier-Saint-Roch, nous étions à Montpellier-Saint-Roch, et nous n'avons rien fait. Et dans la vie chrétienne, nous essayons de descendre du TGV et de courir. Mais ce matin, en une fraction de seconde, il est déjà 3 km de toi. Qu'est-ce que je veux dire? C'est que nous ne comprenons pas que la vie chrétienne, on ne va pas la vivre à la force du poignet, mais dans le Christ. Et tu vas voir qu'à partir de ce moment-là, ça va beaucoup plus facilement. Je ne dis pas qu'il n'y a pas d'effort, je ne dis pas qu'il n'y a pas de combat. Mais je vous laisse un secret ce soir. Ta vie, elle est en lui. Amen. Quand il descend dans la tombe, si tu es en lui, tu descends dans la tombe avec lui. Quand il en sort, comme tu es en lui, tu ressors avec lui. Quand il monte là-haut, tu n'as pas besoin de chercher une échelle et d'essayer. Tu montes avec lui. Tu es en lui. Je dois vous dire, la grande fraction de l'Église n'a jamais compris ça. Et elle ne vit pas ça. Elle n'a pas découvert ce secret-là. Et pourtant, c'est tout l'enseignement apostolique, toutes les épîtres sont pleines de ça. Mais avec quelles lunettes avons-nous lu la Bible? Parce que tout est là. Dans le Christ Jésus. Ce soir, vous allez ressortir de là avec un grand secret. Je comprends quelque chose qui va changer ma vie. C'est pas la force du poignet. C'est pas la force du poignet. Je vis dans la foi au Fils de Dieu. Il y a une parole dans un prophète qui me plaît beaucoup. Tout ce que nous faisons, c'est toi qui l'accomplis pour nous.
Amen.
Quand nous étions à l'école, au début du collège, dans les petites classes, il arrivait que le professeur de dessin nous demande de dessiner quelque chose. Alors il y avait parfois des élèves qui n'étaient pas très doués. Et il est arrivé que la main du professeur se pose sur la main de l'élève. Et dit, laisse-moi faire. Et la main de l'élève devenait souple dans la main du professeur et le professeur faisait le dessin. Et au moment de noter, après vous direz c'est juste, c'est pas juste, ça c'est votre problème. Au moment de noter, il ne tenait pas compte que sa main était venue se poser sur la main de l'enfant. Il notait ce qu'il voyait. Oh Seigneur, Seigneur, si je vais au ciel, c'est pas juste. Je préfère aller en enfer, parce que finalement tout ce que j'ai été, c'est toi qui l'as fait. Bah, tu comprends ça? Et parfois, il y a, je sais pas ce qui se passe en nous, on est fait de travers, je sais pas comment on est fait. Nos mains pourraient être fortifiées par les mains du puissant Jacob, et nous faisons l'enfant gâté, ah non, surtout pas, c'est moi qui va faire, et tu vas voir. Ah ben, c'est sûr qu'il a déjà vu l'amour. Il faut que tu abandonnes ta vie. Arrête avec ton orgueil.
Amen.
Arrête avec tes prétentions. Je vais y arriver, je vais faire. Mais non, tu ramasses à tous les coins de rue. C'est bien. Arrête. Tu peux pas. La barre est haute. Tu ne peux pas. C'est lui qui va tout faire en toi. C'est lui qui va tout faire au travers de ta vie. C'est ça, quand il imprime son nom nouveau, c'est qu'il met sur nous son caractère divin.
Amen.
Une dernière image, c'est celle de l'éponge. Vous la prenez à l'état naturel. C'est sec, c'est rabougri, c'est... Et puis vous la plongez dans l'eau. Regardez-la. Elle change de volume. Elle devient plus grosse. Elle devient plus malléable, plus souple. Vous la sortez de l'eau et vous la pressez. Et vous vous rendez compte que le liquide dans lequel elle a été plongée est entré dans l'éponge. Elle s'est laissée imprégner du liquide dans lequel elle a été immergée. Notre vie chrétienne, c'est ça. Sans Jésus, c'est l'éponge en dehors de l'eau. Et puis Dieu veut nous baptiser dans le Christ. Jésus veut mettre son nom nouveau sur nous. Et nous sommes baptisés dans le Christ. Je ne parle pas du baptistère, de l'eau du baptême, je parle du baptême dans le Christ. Et à ce moment-là, nous commençons à être imprégnés de Jésus. Ça rentre de partout. Qu'on nous sorte et qu'on nous presse. Comme Paul et Silas, dans une mission d'évangélisation qui tourne mal, ils se retrouvent en prison. On les a battus. Ils ont des plaies pleines de taux. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Se plaindre? Silas s'en prendra Paul en disant: tu nous as dit que tu avais eu la vision d'un Macédonien. Mais regarde un petit peu comment ça tourne. C'est pas une vision que tu as eue, c'est un cauchemar. Alors il y en a assez de tout ça. Est-ce qu'ils vont se plaindre, poser une tonne de pourquoi Dieu et pourquoi et pourquoi et on ne comprend pas? Ils étaient dans le Christ. On les a battus. On les a mis en prison. On a mis les sept au pied. C'est-à-dire qu'on a pressé les ponts. Et qu'est-ce qui sort? Pas des plaintes, pas des murmures, pas de la révolte. Il sort du Jésus. On peut le dire comme ça. Il sort du Jésus. Au milieu de la nuit, il priait et il chantait les louanges de Dieu. Parce qu'ils étaient dans le Christ. Mais dans quoi est-ce que tu as été plongé pour te révolter à la première épreuve? Dès que ça va de travers, t'es là, bref, claquer la porte de l'église, t'en prendre aux pasteurs, aux anciens, aux chanteurs, aux diacres, aux trésoriers, je sais pas, aux frères, aux sœurs, t'es prêt à tout plaquer. Parce qu'il y a les preuves, mais dans quoi t'as été plongé? Dans du vinaigre ou quoi? Si tu étais plongé dans le Christ, quand on va te presser, il va sortir du Jésus. J'écrirai sur lui mon nom nouveau, la marque de la nouvelle Jérusalem, mon peuple. Il y a le peuple de l'Antéchrist avec la marque de la bête qui va arriver. Mais moi, je vais écrire mon nom nouveau sur les vainqueurs. Seigneur, j'ai envie de ça. J'ai envie de ça ce soir. Que tu imprègnes ta vie jour après jour et de reprendre le contact avec toi, une vraie piété, une vraie communion avec toi tous les jours. Parce que c'est à ce prix-là que tu vas imprégner ta nature en moi. On va prier le Seigneur quelques instants.